Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
La personne de Jésus-Christ demeure au cœur du message de la Bible et de la foi chrétienne. Il est donc essentiel de comprendre sa vie et son enseignement, ainsi que le sens de sa mort et de sa résurrection.
C'est dans cette optique que nous continuons aujourd'hui notre étude sur l'Évangile de Marc. Nous allons aborder le chapitre 15. Mais avant de lire le texte pour aujourd'hui, je voudrais souhaiter la bienvenue à Matthieu, qui va nous aider à mieux comprendre le message qu'il contient. Matthieu, bonjour.
Bonjour Yann, et bonjour à tous. Merci pour votre invitation.
Matthieu, avant de passer à notre lecture biblique, pouvez-vous nous parler du contexte de ce chapitre 15 dans le récit de l'Évangile de Marc ?
Oui, bien sûr. Ce chapitre relate les dernières heures de la vie de Jésus. À la fin du chapitre 14, Jésus est arrêté par l'élite religieuse juive, puis il est emmené devant un tribunal religieux dont le grand prêtre fait partie. Même si Jésus est innocent de tout crime, ce tribunal trouve pourtant un prétexte pour le condamner. Le chapitre 15 raconte ainsi la suite des événements. Les chefs juifs emmènent Jésus devant Pilate, le gouverneur romain. Celui-ci ne trouve rien de mal en Jésus, mais il finit par céder à la pression des juifs. C'est pourquoi il condamne Jésus à subir la peine de la crucifixion. Cédons à présent la parole à Sandra pour la lecture des versets 16 à 32 dans Marc chapitre 15.
Les soldats emmenèrent Jésus dans la cour intérieure du palais et firent venir toute la cohorte. Alors, ils le revêtirent d'un manteau de couleur pourpre et lui posèrent une couronne tressée de rameaux épineux. Puis, ils le saluèrent en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils le frappaient à la tête avec un roseau et crachaient sur lui, s'agenouillaient et se prosternaient devant lui. Quand ils eurent fini de se moquer de lui, ils lui arrachèrent le manteau de couleur pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent hors de la ville pour le crucifier. Ils obligèrent un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, à porter la croix de Jésus. Et ils amenèrent Jésus au lieu appelé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne ». Ils lui donnèrent du vin additionné de myrrhe, mais il n'en prit pas. Ils le clouèrent sur la croix, puis ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort ce qui reviendrait à chacun. Il était environ 9 heures du matin quand ils le crucifièrent. L'écriteau sur lequel était inscrit le motif de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Avec Jésus, ils crucifièrent 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ceux qui passaient par là lui lançaient des insultes en secouant la tête et criaient « Hé, toi qui démolis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix !» De même aussi, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les spécialistes de la loi. Ils se disaient entre eux « Dire qu'il a sauvé les autres et qu'il est incapable de se sauver lui-même, lui, le Messie, le roi d'Israël, qu'il descende donc de la croix, alors nous verrons. » Et nous croirons. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi.
Merci Sandra. Matthieu, ce texte est plein d'ironie. De plus, il est émouvant à lire. Comment voulez-vous l'aborder ?
Oui Yann, la grande ironie contenue dans ce récit est que tous parlent de Jésus en le présentant comme le roi des Juifs, sans reconnaître qu'il est réellement le roi de tous. Commençons par les Romains. Pour crucifier un individu, il fallait trouver le coupable d'un crime grave. Les chefs juifs ont bien compris cela. C'est pourquoi ils accusent Jésus de prétendre être le roi des Juifs. Ces chefs ne l'ont jamais reconnu en tant que tel, mais ils voient là un bon prétexte pour convaincre l'État romain de la culpabilité de Jésus. Un tel prétendu roi pourrait s'opposer à l'État romain et être considéré par celui-ci comme une réelle menace. Le gouverneur Pilate, quant à lui, comprend que Jésus ne représente aucun danger, mais pour calmer les chefs religieux, il accepte de faire crucifier Jésus en le reconnaissant coupable de l'accusation de ses chefs juifs. Puis, les soldats romains se moquent méchamment de Jésus, car il se présente comme étant le roi des Juifs. Ils le saluent avec mépris. Ils le revêtent d'une robe couleur pourpre, symbole de la royauté. Ils posent sur sa tête une couronne, mais cette couronne est faite de rameaux épineux qui lacèrent douloureusement le crâne de Jésus, faisant couler beaucoup de son sang. Ensuite, les soldats le frappent à la tête, causant des douleurs atroces, et ils se prosternent devant lui pour exprimer ironiquement leur mépris total.
Et un peu plus tard, sur la croix où est suspendu Jésus, on peut lire un écriteau dont les paroles indiquent le motif de sa crucifixion. Les simples mots « le roi des Juifs » y figurent.
Oui, l'État romain affichait ainsi le motif de la condamnation de ceux qui étaient crucifiés. On peut remarquer aussi que les chefs religieux au pied de la croix se moquent de Jésus. Ils le narguent. Ils lui demandent pourquoi, s'il est le roi sauveur, il ne parvient pas à se sauver lui-même.
Matthieu, nous savons que les moqueries des chefs religieux étaient chargées de haine et de mépris. Cependant, quelque part, les questions qu'ils posent sont compréhensibles. Si Jésus est réellement le roi par excellence, celui promis par les prophètes, pourquoi finit-il ainsi, suspendu sur une croix? Pourquoi ne triomphe-t-il pas de ses ennemis? Et puis, s'il est présenté comme étant le sauveur, alors pourquoi ne peut-il pas effectivement se sauver de la croix?
Je voudrais rappeler que Dieu est souverain et qu'il reste maître des événements, même si d'un point de vue humain, tout semble perdu. Ainsi, si Jésus n'a pas cherché à se sauver d'une mort certaine sur la croix, c'est pour une raison bien précise. Et il faut d'ailleurs affirmer que la croix fait partie des desseins de Dieu, non seulement pour Jésus, mais aussi pour l'humanité. La Bible nous enseigne que Jésus aurait pu se sauver, mais qu'il a choisi de renoncer à cette option. Les chefs religieux et Pilate croyaient maîtriser la situation dans laquelle Jésus était l'élément central, l'accusé. Mais en fait, par-dessus tout, Jésus reste le maître souverain. Il s'est livré lui-même aux mains des hommes injustes et méchants. Et il a volontairement subi tous les supplices associés à la crucifixion.
Pourquoi quelqu'un choisirait-il de subir un sort pareil? Pourquoi ne pas y échapper si on en a la possibilité?
En bref, Jésus n'a pas voulu se sauver lui-même d'une mort certaine afin de pouvoir devenir le sauveur d'une multitude d'hommes et de femmes. Selon les desseins de Dieu, le seul moyen de sauver une personne de la juste condamnation du péché, c'est qu'un autre, un innocent, meurt à sa place. Tout au long de l'Ancien Testament, les rites et les sacrifices établissent ce principe. C'est par le sacrifice d'un innocent que notre culpabilité devant Dieu est enlevée et que nous pouvons nous réconcilier avec lui. Les sacrifices tout au long de l'Ancien Testament servent aussi de panneaux de signalisation, indiquant le chemin vers le sacrifice par excellence, celui de Jésus. Oui, Jésus est le Sauveur, car par sa mort sur la croix, il enlève notre culpabilité et il nous réconcilie avec Dieu. Jésus ne s'est pas sauvé de la mort, car il voulait mourir à notre place pour nous sauver, nous, d'une mort certaine. Avant de poursuivre nos réflexions, nous allons écouter un texte biblique, écrit de la main de l'apôtre Paul, alors qu'il médite sur la personne de Jésus et sa mort sur la croix. Il s'agit de Philippiens chapitre 2, les versets 6 à 12.
Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant, jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre. Et que chacun déclare, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
Ces paroles de l'apôtre Paul décrivent la mission du Fils éternel de Dieu. Il a quitté les lieux célestes pour rencontrer la mort. Il est le souverain, mais pendant un temps, il a renoncé à tous les privilèges de sa royauté et de sa divinité, pour devenir un homme et vivre sur la terre en tant que serviteur. Sur la terre, parmi les hommes, il est descendu très bas dans l'échelle sociale, en mourant en tant que criminel. De plus, Il est mort de la façon la plus humiliante, suspendu sur une croix, entouré d'une foule moqueuse et haineuse. Or, en agonisant, il a volontairement pris sur lui tous nos péchés, et il a subi la juste colère de Dieu allant jusqu'à crier « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Toutefois, la mission de Jésus ne se termine pas dans les abîmes de la mort, car Dieu l'a ressuscité. Jésus est remonté jusque dans les cieux, où il reçoit de la part de Dieu le plus grand des honneurs. Il lui est donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, car Jésus est le roi souverain. Il est le Seigneur dans l'univers entier.
Et Paul ajoute que tout être vivant, toute personne, devrait s'agenouiller devant Jésus, reconnaître qu'il est Seigneur et se soumettre à son autorité.
C'est exact, Yann. Dans Marc chapitre 15, nous avons appris que des soldats romains et des chefs religieux s'étaient prosternés devant Jésus dans un simulacre de vénération. Ces gestes étaient remplis de mépris et de moquerie. Mais quand Jésus reviendra, ces personnes devront lui rendre compte de leurs actes. Elles seront alors obligées de se courber devant lui, car il est Seigneur et juge. Jésus est réellement Seigneur. Sa résurrection le prouve. Le reconnaissez-vous ? Oui, nous sommes tous devant un choix à faire. Aujourd'hui, nous pouvons nous repentir de nos mauvaises attitudes et reconnaître qu'il est Seigneur. Alors nous trouverons en lui un Sauveur, un Seigneur prêt à pardonner, prêt à nous recevoir et à régner dans nos vies. Et il veut nous exprimer sa bienveillance. Si par contre nous nous obstinons à mépriser le Seigneur et que nous continuons à nous moquer de lui, alors nous finirons par paraître devant son trône de jugement. Et nous serons bien obligés de nous courber devant lui, de reconnaître qu'il est Seigneur avant de passer en jugement.
C'est une question de vie ou de mort.
Absolument. Jésus est descendu des cieux pour se rendre dans l'abîme de la mort. Il a fait ce voyage par amour pour les hommes. Sur la terre, il a accepté d'endurer l'humiliation, la cruauté et la mort pour prouver la profondeur de son amour aux hommes, pour venir à leur secours et leur offrir le pardon et l'espérance de la vie éternelle. Jésus est digne de l'honneur que Dieu lui accorde en recevant le titre de Seigneur. Jésus est digne de notre louange, il est digne de notre confiance. Jésus est digne de notre amour car il nous a aimés le premier d'un amour insondable. Comment refuser un tel amour? Pourquoi continuer de l'ignorer, de le mépriser ou de se moquer de lui? Sondons nos cœurs et réfléchissons à notre attitude envers Jésus, le Seigneur et le Sauveur.
Merci. Nous poursuivrons en compagnie de Mathieu nos réflexions sur le sens de la croix la prochaine fois. En attendant de vous retrouver, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.